tel qu'elle nous accepte, tel que nous sommes. Il nous aime malgré tout. C'est la découverte d'un être dont nous n'avons rien à craindre. Et voilà la raison pour laquelle la Bible enseigne que le mariage est une union contractée pour la vie. C'est la raison qui incite Jésus à dire à la fin d'un entretien avec les pharisiens, « Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Comment pouvons-nous créer cette ambiance de confiance et de compréhension mutuelle essentielle à la vie d'un couple, sans savoir si après un certain temps, notre conjoint ne va pas se lasser de nous et partir vers d'autres horizons? Qu'est-ce qui prouve dans ces conditions que son amour n'était pas proportionnel à ce que nous pouvons lui offrir? C'est uniquement lorsque les deux partenaires ont accepté de s'unir, en dehors de toute idée de rupture future éventuelle, qu'un vrai mariage d'amour peut se concevoir. Mais comment savoir si on a vraiment découvert l'âme sœur? Comment en est-il certain? Que faire si un an plus tard, on rencontre celle ou celui que, sans doute aucun, on aurait dû attendre? C'est précisément le genre d'idée qui, distillé goutte à goutte dans un ménage, l'empoisonne et le détruit. Oh, bien sûr, au cours de notre vie, nous rencontrons nombre de personnes qui, physiquement parlant, sont très attirantes. Mais disons-nous bien que l'être parfait que la destinée nous réservait n'existe pas, et qu'il ne sert à rien de quitter son conjoint en disant « ça y est, maintenant, j'ai enfin trouvé mon idéal ». Le caractère unique de notre mari ou de notre femme n'existe qu'en fonction de l'amour que nous lui vouons, et non en vertu de ses qualités propres. Une autre question se pose. Pourquoi des relations entretenues uniquement du point de vue physique ne durent-elles jamais très longtemps? Eh bien, tout simplement parce que l'attirance éprouvée pour l'autre est limitée par l'intérêt. L'amour nous ordonne de chercher non pas quelque chose d'inconnu dont nous pourrions tirer profit, mais une personne inconnue avec laquelle nous espérons pouvoir établir des rapports humains réciproques et par conséquent complets. Nous éprouvons souvent une sorte d'attirance pour des choses variées, belle maison, jolie fille, bel homme, mais il en va tout autrement pour l'amour, car il ne s'adresse qu'à un seul être pour qui nous sommes prêts à nous sacrifier et qui à son tour est prêt à faire de même. Ce sentiment unique ne crée pas le mariage, c'est le mariage qui l'établit. Il arrive que des époux ne soient pas satisfaits de leur vie sexuelle. Certains la trouvent même monotone et ennuyeuse. De tels mariages reflètent parfaitement les résultats d'une sexualité qu'on pourrait appeler récréative. Depuis les temps immémoriaux, la passion sexuelle était considérée comme relevant du domaine de l'homme, la femme n'étant que l'objet du plaisir masculin. Dans de telles conditions, il est aisé de comprendre pourquoi les hommes se fatiguaient si vite de leur épouse, aussi belle et aussi attirante qu'elles aient été. Il n'est pas non plus surprenant que les femmes considéraient l'acte sexuel comme étant une corvée, parfois très déplaisante. Les temps ont heureusement changé. Mais ce même genre de raisonnement et de telles unions se rencontrent encore, très souvent, et même trop souvent. Cette catégorie de relations sexuelles présente au moins deux aspects absolument négatifs. Le premier, c'est que les désirs de la femme sont totalement ignorés. On fait d'elle un objet, une dispensatrice de faveurs. Elle n'est alors plus une personne, un être humain, ayant elle aussi des passions, des besoins. La véritable sexualité est un langage par lequel s'exprime l'amour profond entre un homme et une femme. La femme s'entend trop souvent dire « je veux me servir de toi » et non pas « je t'aime ». C'est-à-dire « tu es un moyen, je te prends, mais ne me demande rien ». Et deuxièmement, dans un tel mariage, l'homme considère que la satisfaction de son désir est quelque chose qu'il reçoit, mais qui n'est pas nécessairement l'expression de son amour. En effet, lorsque l'homme donne peu lors du rapport sexuel, il reçoit lui-même très peu, quoi qu'il en pense. Il passe en quelque sorte à côté du but à atteindre. Et c'est parce qu'il considère l'amour comme un moyen d'exploitation qu'il n'a pas droit à cette pleine satisfaction qu'il recherche par-dessus tout. Dieu voit les vraies nécessités de l'homme et le guide vers elles. Mais le mariage, le plaisir des deux conjoints doit être pleinement réalisé. L'apôtre Paul le dit bien, que le mari rende à sa femme ce qu'elle lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. On ne trouve ni joie ni plaisir en les cherchant uniquement pour soi-même, et nulle part ailleurs que dans le mariage, cette maxime est plus vraie et plus importante. L'attraction physique ne peut servir de base au mariage. L'union entre deux êtres doit en effet, au fur et à mesure que le temps passe, subir des examens, des critiques, des révisions de part et d'autre. L'attirance charnelle n'est valable quant à elle que pour une période de temps donnée. Parfois même un instant que l'on s'empresse d'exploiter. Rien de tout cela n'est comparable à l'idée d'un mariage contracté pour la vie, et pour le meilleur et pour le pire. En réalité, ce sont tous les rapports cultivés au cours des premières années du mariage qui laissent leur empreinte indélébile sur chacun des conjoints. Les enfants également soudent leur amour et fait d'eux un couple unique, une famille dans laquelle chacun des membres joue son rôle propre. L'homme et la femme deviennent alors vraiment une partie de l'autre. Une femme mûre, en parlant des joies du mariage, dit un jour en parlant de son mari, « Je suis heureuse d'avoir cet homme à aimer. » Elle ne dit pas un homme, mais cet homme. L'amour a donc ouvert à cette femme les portes de la vie. Par son amour, elle est entrée dans la vie de son mari d'une manière qui finit par exclure tout égocentrisme. Ce n'est pas elle qui compte, mais lui. Contrairement à ce que l'on pense trop souvent encore, la Bible ne constitue pas un livre d'anciennes lois dépassées par le temps et l'époque où nous vivons, et dont l'un des buts est de restreindre l'expression sexuelle des êtres humains. C'est plutôt le livre de la vie, par lequel Dieu nous révèle la voie à suivre pour jouir d'une vie d'amour qui dépasse toutes nos espérances. C'est uniquement en nous donnant au Fils de Dieu que nous obtenons la vraie liberté, celle qui nous permet d'aimer de la sorte. C'est lorsque nous avons appris le secret du bonheur de l'autre que nous pouvons vivre pour lui et pour elle, de cette façon toute spéciale, remplie de sérénité et de bonheur. Lorsque nous sommes parvenus à cette découverte, tout prend un sens nouveau dans notre vie, et spécialement notre mariage.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal qui vous l'a présenté. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, méditation biblique, boîte postale 2398 31086 Toulouse CEDEX. Et je répète, Jacques Marchal, méditation biblique, boîte postale 2398-31086, Toulouse, CEDEX, France. Au revoir, à la semaine prochaine, même heure, et que le Seigneur vous bénisse.